Sud.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On apprend d'ailleurs à l'instant que le Parti libéral va avoir son ou sa nouvelle chef le 14 juin 2025, dans un peu plus d'un an. Et là, un peu plus d'un an, là, on a la date à partir du 15 juin 2025. Le Parti libéral va pouvoir compter sur un ou une nouvelle chef, mais il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui se sont déclarés intéressés par ce leadership-là. Évidemment, Denis Coderre, on le sait. Il y a Fred Beauchemin, qui est un député siégeant dans le caucus actuel, qui semble aussi intéressé. Mais il y a comme plein de petits bruits, plein de petites rumeurs qui courent un peu partout. D'un côté, il y a Carl Blackburn, qui est le président du Conseil du patronat du Québec, qui est dans ces rumeurs-là. Il y a aussi Charles Milliard, qui est président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir d'autres noms. Moi, je trouve ça quand même intéressant qu'il puisse y avoir des rumeurs, mais j'ai bien hâte que cette course soit lancée parce que, honnêtement, jusqu'à maintenant, ça fait dur dans le caucus libéral. Ça fait pas bouger de beaucoup de choses, ça fait pas beaucoup l'actualité, on sait pas ce qu'il pense des dossiers. Au moins, Denis Coderre, lui, ben, il nous donne un show. Il nous donne un show bien plus intéressant que le show que nous donne le caucus libéral actuel. Peut-être qu'un nouveau chef va venir leur insuffler l'énergie nécessaire pour aller jusqu'à la fin de la présente législature, se préparer aux élections, puis faire face à un Paul Saint-Pierre Plamondon qui est populaire, qui a un message clair, un message qui dérange peut-être, mais il a le mérite d'être clair. Hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en 2026, mais d'ici là, plusieurs éternités qui vont se succéder. Nous, on va être là, puis on va tout suivre ça. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, la Russie dévoile... Ben, en fait, on nous apprend qu'il y a des plans secrets de manière à diminuer l'impact des États-Unis à travers le monde. Et c'est pas mal détaillé, là. C'est pas juste un vœu pieux, là, il travaille vraiment là-dessus.
En fait, il s'agit d'un document officiel du ministère des Affaires étrangères de Russie. Il s'agit d'une annexe à ce document-là qui était, elle, considérée comme top secrète. Elle a été remise entre les mains du Washington Post, dit-on, par un service de renseignement occidental, je ne sais pas lequel. Et c'est fort intéressant. Hein? Je te cite, entre autres, le ministre des Affaires étrangères de Russie. Élaborer des plans pour affaiblir ses rivaux occidentaux, notamment les États-Unis, et à profiter de la guerre en Ukraine pour forger un ordre mondial affranchi de la domination américaine. C'est beaucoup de mots, là, mais on en a souvent parlé à ce micro-ci. On est en train d'assister, sans trop y porter attention, enfin pas de façon, comment dire, cartésienne, formelle, mais on est en train d'assister à la création d'un nouvel axe dans les affaires mondiales, et sur cet axe, c'est la Russie, hein, qui est le bras armé, littéralement. C'est la Chine, c'est la Corée du Nord.
Le bras financier.
Oui, c'est la Corée du Nord.
Bras nucléaire.
Bras nucléaire, non pas tant ça
non,
que...
Non, mais armement. C'est ça,
armement. Ce sont des fabricants d'armement, des Kalachnikovs, des munitions, et ainsi de suite. Alors... Et on pourrait ajouter une série d'autres pays, mais grosso modo, quand tu mets la Chine avec l'Iran, avec la Russie, t'as à la fois sur le plan géographique et géopolitique quelque chose de assez difficile à renverser ou à ignorer. Les Russes, quand ils ont lancé leur attaque sur l'Ukraine il y a un peu plus de 2 ans, se sont retrouvés l'objet de sanctions par l'Occident, qui était si énorme qu'on pensait que le pays allait littéralement être paralysé et arrêter de fonctionner.
On dirait pas?
Mais c'est pas arrivé du tout.
Non?
En fait, l'économie russe a eu une meilleure croissance que l'économie canadienne depuis 2 ans. Donc, comment se fait-il qu'on applique des sanctions pareilles? sur le système bancaire, sur les transports,
hey,
sur
les
l'énergie.
McDo ont fermé, les Starbucks ont fermé, les H&M ont fermé, tout. Ils ont tous quitté le territoire russe.
Mais ils ont, comme par hasard, été remplacés presque immédiatement. Par exemple, dans le cas des McDo, je trouve ça drôle, ils ont juste un peu modifié le logo parce qu'ils n'ont pas le droit de l'imiter. Alors, ils ont modifié un peu le logo puis ils servent encore des hamburgers, pareil comme ceux de chez McDo, mais McDo n'est plus représenté. Et c'est la même chose pour les banques. Un matin, tu te réveilles après le début des sanctions, tu es un citoyen russe, tu veux retirer de l'argent, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça marche plus le système.
Ben, on se rappelle tout ce débat sur la technologie SWIFT, est-ce qu'on suspend l'utilisation? On l'a suspendu, ça n'a rien changé pour les Russes. Mais cette volonté de finalement contrecarrer l'hégémonie américaine, pour ne pas dire occidental, et finalement de parler d'égal à égal avec les États-Unis qui mènent finalement le monde, ça oblige d'autres pays à s'aligner, à choisir leur camp. On revient.
C'est ça qui est à la fois épeurant et intriguant. Que vont faire les pays d'Europe? L'ordre mondial actuel, avant ce dont on parle maintenant, découlait des lendemains de la Deuxième Guerre mondiale.
Ben oui.
L'Europe était en ruine, les États-Unis ont lancé le plan Marshall, qui a permis de reconstruire des infrastructures, de relancer l'économie et de mettre un frein à l'expansionnisme de la vision soviétique. Cette réalité, faut bien l'admettre, au-delà des volontés de Poutine et tout ça, ça ne marche plus. Ça ne représente plus l'ordre mondial tel qu'il se présente. Au Conseil de sécurité des Nations unies, t'as la France, hein, t'as l'Angleterre, t'as les États-Unis, la Chine, la Russie. Bon, mais où est l'Inde? 1,5 milliard d'habitants, taux de croissance de l'économie de 6-7% par année. Ils sont pas là.
Aucun pays africain?
Aucun pays africain, aucun pays d'Amérique latine. Le Brésil est devenu une sorte de puissance régionale sur le plan
économique,
sur le plan manufacturier.
Industriel, c'est certainement.
Alors, où sont-ils? Comment les États-Unis peuvent-ils toujours prétendre être l'arbitre ultime de tous les conflits du monde? Tôt ou tard, ça devait sauter. Ça pouvait pas durer, tu comprends? Tu peux pas vivre dans le passé, tu peux pas vivre 80 ans plus tard comme si rien n'est arrivé entre les deux. Alors, ce document-là dont on parlait d'entrée de jeu, c'est un document intéressant parce qu'il ne fait que confirmer ce qu'on voyait se dérouler sous nos yeux et que les gens ne semblent pas apprécier à sa juste valeur ce phénomène. C'est un phénomène qui va changer la face du monde pour des générations à venir. Comment ça va finir? Est-ce que les Russes vont gagner en Ukraine? De plus en plus, bon, les Américains viennent, dans un geste surprise, de finalement approuver sur une base sans partisanerie l'aide à l'Ukraine. Bon, mais malgré tout, l'Ukraine, ils sont dans un cul-de-sac. Ils sont plus capables de sortir de leur enclave. On a beau leur donner de l'armement, je pense qu'il est trop tard. Je pense qu'il va falloir trouver une façon de mettre fin à cette guerre par la négociation. Donc,
Ils vont devoir faire des concessions. On ne pourra pas aller chercher la Crimée.
Ben, c'est ça. La Crimée, on connaît l'histoire. C'est un morceau de la Russie qui a été donné à l'Ukraine au début des années 50, après la mort de Staline. Khrouchtchev, le secrétaire général qui a succédé à Staline, était originaire de l'Ukraine. L'Ukraine détestait la Russie à cause de la famine qu'on leur avait imposée et de nombreuses autres choses. Et pour montrer que l'époque stalinienne était terminée, Khrouchtchev avait dit, dorénavant, la Crimée, ça fait partie de l'Ukraine. Ah bon? Là, ben, il se trouve que la Crimée est à 90% russophone. Penser qu'ils vont récupérer la Crimée, ça marche pas, là. Ça arrivera pas. Là.
Mais c'est parce qu'on leur a fait croire là, qu'on allait les accompagner dans toute l'offensive qu'ils vont pouvoir aller faire.
On leur a fait croire.
Le Donbass, puis...
On leur a fait croire toutes sortes de choses, mais on a oublié de leur dire que la loi du nombre, quand on parle de guerre et de paix, la loi du nombre
est
fondamentale. T'as 140 millions d'habitants d'un bord, ça c'est la Russie, puis t'en as 40 millions de l'autre. Ensuite, tu regardes à nouveau en Russie, des usines de fabrication d'armes, ma foi, assez sophistiquées. Il en restait un peu en Ukraine aussi. Alors, tu peux pas gagner la guerre avec un slingshot. Tu peux pas gagner la guerre...
Avec des beaux discours, non plus.
Ouais, avec des beaux discours, puis en disant l'alliance qui est l'OTAN va continuer de me protéger tout en n'étant pas actif parce qu'on n'est pas membre de l'OTAN. Tu vois que ça tourne en rond, que ça coûte une fortune aux pays occidentaux qui ont décidé de se coaliser pour...
Ils agissent comme proxy. L'Ukraine mène une guerre... Elle est prise dans une guerre comme proxy du monde occidental.
Exactement. C'est eux autres qui y goûtent. Puis nous autres, on leur envoie des armes, de l'argent, des munitions, mais jamais assez.
Leur envoie aussi beaucoup de bonnes pensées.
Oui, nous, ici, on est très forts au Canada pour dire hey, « c'est extraordinaire comme on a des bonnes pensées pour eux », mais quant à l'idée de leur envoyer des chars d'assaut, on leur en envoie 8 parce qu'on n'en a pas plus.
Puis quand on le reçoit, on invite un nazi.
Et voilà. Alors,
on est bon là-dedans. Luc?
Le nazi au commun, quelle histoire.
À chaque fois que j'y pense, je suis comme gênée. Tu sais, quand tu regardes un événement ou quelque chose à la télé, là, pis c'est pas toi qui l'as fait. T'es gênée. Chaque fois que j'en parle, je suis comme, non.
Invité par le...
Un nazi.
Applaudi. À tout rompre par Zelensky lui-même. Poutine n'en revient toujours pas. Quand il y a des moments où il commence à être triste, il pense à ça, puis il se roule de rire.
Moi, je pense que Poutine, il regarde vidéo en boucle à chaque fois qu'il est triste.
Voilà.
Aussi régulièrement que toi, tu regardes les Pinot Caron.
Voilà. À chacun ses Pinot Caron.
Et on a reçu Zelensky avec un nazi.
Juste un mot avant de terminer sur l'attaque israélienne contre l'Iran.
L'attaque.
Ouais. Tu sais, on a peur de l'escalade. Les deux côtés ont peur de l'escalade, mais les deux côtés doivent sauver la face à leur peuple, Alors là, l'Iran, c'était son tour. C'est-à-dire, Israël, l'Israël a tué deux généraux, l'Iran a envoyé une pluie de missiles qui ont touché...
Personne n'a touché.
Personne qui a touché personne, parce que ça avait l'air calculé, avait arrangé avec le gars des vues. Et puis là... Hier, vers 11h30, vers 23h dans ce coin-là, tout à coup, la grosse nouvelle qui nous vient de cette région du monde, Israël a attaqué dans le territoire.
Il se parle.
Et là, tu regardes ça comme il faut. Ils ont envoyé effectivement des missiles qui ont frappé comme là où il n'y avait aucun dommage à faire. C'était tellement bien ciblé, il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas eu un blessé. Et heureusement, moi qui trouve, j'ai toujours rêvé d'aller visiter la ville d'Ispahan, qui est
un joyau de la culture perse, de la civilisation. On oublie souvent que c'est une
et
civilisation.
Aussi. Oui. Alors, c'était en fait la capitale de l'Empire perse. Alors, on a au moins sauvé Ispahan. On a perdu Odessa ou presque dans la guerre en Ukraine. De voir des richesses culturelles aussi vieilles, aussi belles, aussi raffinées...
Se perdre à cause des canaux?
Moi, avec des canons agités par des cons, ça me fait toujours de la peine.
Mais Luc, j'ai l'impression d'être plus crédible quand je dis à mes enfants que je vais enlever le biscuit en dessert que lorsqu'ils disent qu'ils vont s'attaquer mutuellement.
Pas de biscuit!
Pas de biscuit!
Non! Pas de crème à la glace non plus.
Mais là, tu sais, ils envoient des missiles, puis ils savent que ça va tomber comme...
Mais ils savent que ça va servir à rien.
Tant mieux que ça tue personne, là. Moi, je suis contente.
Non, mais tu vois-tu la pièce de théâtre qui nous montre, on est là, puis hop, il y a une grosse attaque, t'es effrayant.
Il n'y
a pas un blessé, il n'y a rien. Il y a des trous dans le sol où les missiles sont tombés, c'est tout. Puis ils auraient peut-être endommagé un morceau d'une piste d'atterrissage d'aéroport, mais dans le fond...
Je devrais aller prendre un verre, là, ça calme mes esprits. Luc Lavoie!
Salut, bye. Bon week-end.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Attendez, c'est le nouvel album de la fameuse Taylor Swift, le nouvel album qui est sorti. Et finalement, la surprise, c'était que c'est un double album. Il s'intitule The Tortured Poets Department. C'est très attendu. On en parle avec Sarah-Émilie, nos journalistes culturels au Journal de Montréal. Sarah-Émilie, bonjour.
Bonjour, bonjour. Ça va bien?
Ça va très bien. Il y a beaucoup de Swifties aujourd'hui, là, bien excités. Tout le monde parle de ça. Moi, je n'y connais rien dans cette religion de Taylor Swift. Là, j'ai pas encore été frappée par le prosélytisme. Mais toi, tu es passé à travers ce nouvel album. Tes impressions?
Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai été convertie ce matin, moi, à 7 heures du matin. Parce que je dois avouer que je suivais Taylor Swift. Évidemment, là, elle est partout, on la suit, on aime savoir sa vie, on voit bien qu'il y a quelque chose de vraiment gros avec elle et tout ça. Puis j'avais des amis Swifties et tout. Mais même hier soir, en soupant avec des amis, je disais « Ouais, mais moi, je sais pas, j'ai pas nécessairement... était happée par ça, puis finalement, je me rétracte. Ce matin, je suis devenue une Swifties en écoutant, je dirais presque les premières notes, en fait, des premières
Mon
chansons.
Mon Dieu, ça a l'air puissant comme drogue, ça!
Non, vraiment, j'ai compris, je crois. Peut-être que c'est la littéraire et la fan de poésie en moi, en fait, qui a été séduite, parce que je trouve que cet album-là porte très bien son nom. C'est pour moi de la poésie, vraiment, là, tu sais, c'est au-delà de la balade « J'ai le cœur brisé, ça ne va pas », mais c'est vraiment des paroles intenses, c'est déchiré, c'est plein de contradictions, ça nous fait... Chaque personne va se retrouver à quelque part dans ces paroles-là, parce qu'on a tous déjà eu le cœur brisé, parce qu'on a tous déjà, on s'est déjà tous sentis de plein de sentiments en même temps, avec nos contradictions, avec j'aimerais plus jamais, mais je veux trouver l'homme de ma vie, mais je regrette tellement, mais je m'ennuie donc bien de lui.
Fait qu'elle reprend, finalement, c'est des thèmes communs, là, des thèmes qui peuvent rejoindre tout le monde. Mais la différence entre Taylor Swift et bien d'autres artistes du pop, là, finalement, c'est une artiste complète dans le sens où elle écrit, elle compose, elle fait tout, là, tu sais, de l'écriture à la mélodie, elle fait tout. Est-ce que c'est un risque?
Allez-y. Vas-y. Mais j'allais dire, on sent tout ce travail-là derrière ces chansons, en fait, c'est ce que je voulais dire. Là. Au-delà de la musique pop, des fois, on se dit, bon, ça a été écrit rapidement et tout ça, mais tu sais, j'ai l'impression qu'elle était vraiment assise là, à mettre ses tripes sur la table, puis à vraiment expliquer comment elle se sent. Tu sais, au-delà de, tu sais, c'est quand même une artiste très connue, puis elle pourrait être jugée aussi pour cette manière de s'ouvrir là. Mais je pense que, je crois avoir compris ce matin que c'est pour ça que les gens qui l'aiment aussi fort, parce que on se retrouve en elle. Tu sais, elle peut sembler parfaite, mais elle est pas parfaite. Tu sais, elle chante dans une chanson, je suis une idole, tout le monde me suit, je souris toujours, mais souvent j'ai de la peine et je réussis à le cacher, ce qui est un art en soi. Tu sais, elle le dit vraiment. Donc, je pense que, ben, c'est ça. En fait, on se retrouve.
Tu parles comme une Swiftie, là, Sarah.
Mais
je sais,
je sais pas. J'ai été ensorcelée ce matin, je vous dis, là, parce que j'aurais pas dit ça hier soir.
Exorcisez-la, quelqu'un, elle a été prise par. Non, mais honnêtement, moi, je comprends pas cette religion-là, là, puis je comprends pas tout l'engouement autour de Taylor Swift. Tu sais, des chanteurs qui viennent chercher, il y en a un puis un autre, oui. Puis, tu sais, il y a du monde qui trippe, mais. Le dernier artiste qui, pour moi, a amené ce même genre de folie, c'est Michael Jackson. C'est Michael Jackson, oui. Où les fans montaient sur scène puis essayaient de rester accrochés à ses pieds, puis qu'il fallait du monde pour le libérer. Qu'est-ce qu'il y a à propos de ces personnages, au-delà de leur art, parce que le talent, il y a ça chez bien du monde, mais sur la personne... Qui est si.
Moi, j'ai l'impression. Tu sais, il y a beaucoup le woman power et tout ça, là, dont on parle quand même depuis plusieurs années, tout ça. Puis elle représente ça, tu sais. C'est une jeune femme qui, avant, suivait ce qu'on attendait d'elle, puis qui, finalement, récemment, a décidé de prendre vraiment les rênes de ce qu'elle fait, de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle produit, puis elle a décidé de, tu sais, on lui dit arrête de faire des tunes de break-up, mais finalement elle est revenue à ça, elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle a son pouvoir entre les mains, puis je pense que c'est très inspirant en fait pour, je crois, là, pour les jeunes femmes. Moi, je la trouve inspirante. Plus peut-être que d'autres chanteuses pop qui font juste, je sais pas moi, danser et tout ça, tu sais, il y a quelque chose en elle, une force, mais aussi ben c'est ça, elle se présente je crois telle qu'elle est en tout cas, puis elle a pas peur de dire qu'elle est triste et tout ça, tu sais.
Mais
c'est mon opinion, je crois bien que les jeunes se voient en elle en fait. Là.
Ta chanson préférée dans cet album-là?
Ben moi j'étais déjà une inconditionnelle de Florence Welch et la chanteuse de Florence and the Machine qui est une chanteuse britannique que j'aime vraiment vraiment beaucoup et qui est une amie de Blake Lively qui est la meilleure amie de Taylor Swift, donc on imagine qu'ils se sont rencontrés écoute ça devait faire des beaux soupers ensemble, puis ils ont une chanson ensemble sur cet album Florida qui est très belle et un peu une ode à on part en fille, on s'en va en Floride, on oublie nos cœurs brisés tout ça, donc c'est sympathique, puis Florence est vraiment vraiment talentueuse. Puis j'aime bien aussi le premier extrait, là, vous allez comprendre en l'écoutant, en fait, avec Post Malone, tu sais, qui vient tout de suite nous chercher, là. Donc, ouais, on comprend bien pourquoi ça a été choisi comme premier extrait, là.
Puis là, elle dit qu'elle a fait une surprise, puis c'est un double album. Ça veut dire quoi, un double album? Explique à ceux qui, comme moi, ne connaissent rien à ce langage.
Ah, ben, ça veut dire que ceux qui avaient, comme moi, pré-téléchargé l'album hier, se sont rendus compte qu'il y avait un autre album à télécharger. Donc, c'est vraiment, au début, elle avait, je l'ai devant moi, là, elle avait annoncé le premier album, on voyait qu'il y avait, je crois, 16 chansons. Puis là, ben finalement, il y a une autre pochette d'album, ça s'appelle The Anthology, qui est noire, celle-ci, et qui a, elle aussi, ben mon Dieu, donc en tout ensemble, là, ça fait 31 albums. Donc, c'est vraiment si elle lance deux albums en même temps du même album, finalement.
Je sais pas où elle
donc,
trouve ça, le temps d'enregistrer autant de chansons. Elle qui est en train de faire une tournée mondiale absolument spectaculaire. Mais là, ça donne du gaz, ça, à la préparation d'une prochaine tournée avec les deux nouveaux albums.
J'imagine bien. Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que je passais à travers les commentaires un peu sur Facebook, là, sur sa page, puis il y avait une Swiftie qui disait « Je sais pas comment Taylor Swift a fait pour écrire un album double et le composer tout ça pendant qu'elle faisait une tournée mondiale spectaculaire, alors que moi, j'ai de la difficulté à faire mon lavage et à plier le linge la même journée. »
Et puis là, je suis dans le même état qu'elle. Moi, ça prend 2 heures à faire une brassée de lavage, 14 jours pour la replier et la remettre dans les tiroirs. C'est en moyenne, c'est ça. Jusqu'à ce que ma mère vienne chez nous et elle me chicane.
Non, c'est ça. Mais oui, j'imagine que, évidemment, ça doit ouvrir la porte à bien des spéculations. Et évidemment, on imagine bien qu'il y aura toutes ces chansons-là sur scène. Là. Donc, j'ai l'impression que les gens qui ont des billets pour les prochains spectacles doivent se demander est-ce qu'elle va faire des nouvelles chansons. J'imagine bien. Là.
Ben, j'imagine. Ah, ben, la vie des gens riches et célèbres qui continuent d'accumuler les succès qui sont attendus. Bon, on va aller écouter ce double album-là de Tortured Poets Department. Ça a l'air bien fun, bien bon. Ça dure 2 heures, Montréal, Québec. Vous avez fini Taylor Swift. Sarah Emilino, journaliste culturelle au Journal de Montréal. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Bye-bye.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Yasmine, moi, je vais te donner un autre truc. Au lieu de que ça te prenne 14 jours pour plier tes vêtements de brassée propre, t'as juste à le porter au fur et à mesure. Fait que t'as pas besoin de le plier. Tu sais, tu piges dans le panier de linge propre puis tu le remets, puis voilà. Économie circulaire.
Je peux pas dire que ce truc-là n'est pas déjà mis
en pratique.
En pratique, c'est mes enfants. Maman, j'ai plus de bas. Va dans le panier de linge papier.
Trouve-lui qui fit avec, là, puis ça va marcher. Yasmine, est-ce que tu te souviens de Fort Boyard?
Et plein, oui.
Est-ce que tu aurais été le genre à accepter l'invitation d'y aller?
J'aurais adoré.
C'est vrai?
Adoré, adoré, oh, ouais. Adoré.
T'as pas peur, les souris, les araignées?
Moi, il y a une épreuve que j'ai toujours voulu faire.
Laquelle?
Celle avec les seaux d'eau. Tu sais, le tapis roulant, là, tu coupes, tu dois prendre les seaux du plafond puis remplir pour que la clé sorte. Là.
Ouais.
Écoute.
Ça, t'aurais aimé ça?
Quand j'étais jeune, là, je m'imaginais faire cette épreuve.
Oh, ouais. Ouais. Hein? Tu te lançais le défi là, dans ta tête puis t'étais comme, ah, ouais, moi, la clé. Là,
puis la lutte dans l'argile où je le
trouve. Oui! Hey, tu me ramènes des souvenirs, là. Tu sais, moi, j'avais surtout tout ce qui est bibite, là. Tu sais, fallait qu'il aille chercher des petits papiers en dessous de scorpions.
Ouais, ça, c'est moins
fun. Les araignées. Sinon, il y avait aussi le genre de funambule, un peu comme Sophie, ce qu'elle a fait à Sortez-moi d'ici, là. Tu sais, c'est un peu le même genre d'épreuve. C'est sûr que vous vous souvenez du Père Fourard. Combien d'imitations de Fort Boyard. Ah yes, Sophie nous fait sa démonstration de son regard de feu.
Non, mais là, elle a un regard de cube. Moi, je veux avoir le regard du Panama. Oh, oui, regarde. le regard du Panama. C'est pour toi, Nicolas, que je fais ça.
Oui.
Je pense à Nicolas en faisant ça.
Oh, ça nous a marqué, cette scène-là. Non, mais... Puis tu sais, la fin aussi de Fort Boyard, quand il fallait qu'il aille chercher les pièces.
Oui.
Avec les tigres qui pouvaient sortir à tout moment. Oh, c'était tellement enlevant.
Je trouvais les participants bien poches. Oh. Parce que il me semble qu'après ce nombre d'épisodes-là, vous devriez trouver tous une méthode pour ramasser plus d'argent.
Ouais.
Tu sais, ceux qui comprennent qu'il faut lever la fille puis l'utiliser. Oui. Il me semble que tout le monde devrait faire ça, mais il me semble que tout le monde n'est pas intelligent.
En tout cas, t'aurais dû y aller.
J'aurais dû y
aller. Yasmine. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Fort Boyard est en train de tomber en ruine.
Non!
Oui, à cause des aléas climatiques, tout simplement, les vagues qui fouettent le fort, ça fait qu'il se détériore en ce moment. Mais là, on a annoncé une bonne cure de rajeunissement. Écoutez, ça va coûter 65 millions de dollars d'ici 2028. Mais ensuite, le fort devrait devenir accessible au public. Hey, ça, c'est vieux, là, le Fort Boyard. Ça a été bâti entre 1803 et 1857. C'était un ancien ouvrage militaire. C'était devenu une prison par la suite. Puis après, ben, on a eu mille et une émissions de télévision dans ce fort-là. Je pense qu'on garde tous d'excellents souvenirs de cette émission-là. Mais oui, on apprend aujourd'hui que Fort Boyard va avoir une belle cure, là, une belle cure de rajeunissement. Donc peut-être on aura d'autres émissions là-dessus. On va poursuivre l'épisode de Yasmine dans les prochaines minutes avec entre autres la chronique de Pierre Nantel qui nous apporte toujours un autre regard hein, sur les sujets politiques qui ont fait l'actualité cette semaine. Donc, je vous invite à rester avec nous. Cube.ca, l'application Cube aussi pour nous écouter en direct. Sinon, la chaîne télé, évidemment, s'était débrouillée, mais là, plus maintenant. Donc, j'espère que vous l'avez ajouté à votre forfait de chaîne spécialisée. J'ai d'ailleurs eu des courriels, entre autres Gilles Mondou. Je vous salue. Merci de l'avoir ajouté. Ça fait toute la différence de savoir que vous faites partie de la belle gang de Cube.
Pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Yasmine Abdel Fadel, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Parlons de ce sondage léger pour le compte du Parti québécois qui nous apprend que 82 % des Québécois croient que les champs de compétences devraient être respectés. Est-ce que ça fait mentir Justin Trudeau qui prétendait le contraire et pas à peu près?
Ben, tu sais, moi, je vois pas beaucoup de personnes dire les gouvernements ne doivent pas respecter les juridictions respectives. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut en prendre et en laisser dans le sondage, mais si on posait la question... Pensez-vous que le gouvernement fédéral doit annuler le programme de santé de soins dentaires ou de couverture de la contraception et du diabète? Je n'ai pas l'impression qu'on va avoir les mêmes chiffres, là, tu sais. Parce que c'est facile d'être pour. Théoriquement, là, c'est normal de vouloir que les compétences de chacun soient respectées. Mais ça, ça vient avec faire des sacrifices et rejeter des initiatives que l'on n'a pas autrement. Alors. Moi, je voudrais que le gouvernement fédéral retire finalement cette imposition des soins dentaires, de l'assurance maladie, par exemple, parce que nous, on s'en occupe, nous, de nos affaires ici. Mais si on demande aux mêmes personnes qui ont répondu à ce sondage-là, est-ce que vous allez avoir la même réponse si on vous dit que ça aurait comme conséquence pas d'assurance dentaire, pas l'assurance de contraception et finalement pour le diabète? Pas sûr.
Peut-être que les gens, en même temps, diraient « Donnez-nous l'argent, on va le gérer à notre façon, ici au Québec, par exemple. »
Oui, c'est évidemment une option, mais là, on rentre dans une technicalité de relations intergouvernementales. Le citoyen, là, il dit, peu importe que ce soit le fédéral ou le provincial qui me l'offre, donnez-moi le service, là. S'il faut que vous livriez l'argent au Québec puis que Québec développe le programme, tant mieux, ça va respecter et les champs de compétences et ça va me donner des services. Problème, c'est que, avec le évidemment, on a raison de demander toujours une compensation sans condition parce qu'on est maître de nos priorités et de juger où est-ce que l'argent doit aller. Mais le gouvernement ne s'engage pas, lui, à déployer un programme de soins dentaires comme le fait le fédéral. Il veut pas se retrouver à financer un nouveau programme. Alors, si le fédéral transfère cet argent-là, ça ne va pas donner le même service aux Québécois moyens. Il y a une disparité entre la théorie, la pratique, ce que les Québécois veulent. Ils veulent se faire respecter par le fédéral, mais ils veulent pas nécessairement fermer la porte aux initiatives du fédéral. C'est assez particulier de voir à quel point on est pris dans nos propres contradictions comme peuple.
Intéressant. Parlons maintenant de Québec qui, finalement, la réponse est venue assez rapidement, suit le fédéral pour imposer davantage le gain en capital. Est-ce que tu crois, Yasmine, l'explication du ministre Girard là, qui disait que c'est plus simple de suivre le fédéral pour des raisons de cohésion, une cohésion quand même qui rapporte 3 milliards sur 5 ans?
Moi, je me rappelle d'une campagne électorale où le premier ministre Legault reprochait à Québec solidaire d'avoir des mesures où on allait alourdir le fardeau fiscal des Québécois. Les taxes oranges, on se rappelle, les taxes oranges, comment ça faisait mal à Québec solidaire, puis à quel point c'était décrié par François Legault. Ben, cette mesure-là, là, les seules personnes qui sont d'accord avec ça sur la scène provinciale, c'est Québec solidaire, là. T'sais, exactement la même chose. Je suis déçue que Québec emboîte le pas parce que Québec s'est toujours engagé depuis l'élection de M. Legault de ne pas alourdir le fardeau fiscal des Québécois, de ne pas aller piger dans l'argent des Québécois. Or là, il trouve la voie pavée par un gouvernement qui n'est pas à suivre. Le gouvernement fédéral, là, c'est pas un gouvernement exemplaire en matière de gestion des finances publiques et gestion de la fiscalité canadienne, là. Je pensais qu'Éric Girard allait se dire, s'il y a un exemple à pas suivre, c'est bien le gouvernement fédéral. Eh ben, non, là, il trouve une voie pavée, il embarque dedans, puis il dit, ben, tant qu'à y être, j'allais chercher mes 3 milliards sur 5 ans. Je trouve que c'est fiscalement opportuniste. Appelons ça comme ça. Le gouvernement est pris avec un déficit, essaye de l'éponger le plus rapidement possible, puis il se dit, anyway, c'est le fédéral qui a commencé ça. Nous, on va pouvoir en profiter par la bande.
Ouais, tu penses qu'on se dit qu'on ne s'ouvrira pas de porter l'odieux, finalement, de cette décision-là?
Oui, parce que c'est pas, le débat a déjà été fait sur le fédéral. Le fédéral est déjà en train de payer le prix politique d'une telle mesure.
Et c'est beaucoup d'argent.
Et là, c'est énormément d'argent. Puis il y a une expression en anglais, là, on l'a pas en français, mais en anglais on dit if you can't convince them, confuse them. Alors Éric Girard dit ben moi je vais en profiter. Puis on va dire que c'est le fédéral qui a parti cette mesure là. Nous on fait juste suivre parce qu'on a besoin de suivre. Puis c'est pas grave. C'est une stratégie qui va fonctionner pour eux. Mais je trouve ça absolument cynique.
Yasmine, merci beaucoup.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
On retrouve mon ami Pierre Nantel. Bonjour, Pierre. Yasmine.
Comment ça va?
Ça va bien. Grosse semaine pour PSPP. Lui, je pense que ça a été une moins bonne semaine que pour nous autres.
Ben, écoute, moi je dois dire que je le comprends de vouloir alerter les gens. Il y a comme une espèce d'apathie qui s'installe sur toutes sortes de sujets, puis la louisianisation du Québec, je m'excuse, elle arrive. Elle arrive au niveau culturel en particulier. Alors moi, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui brasse les cloches. C'est sûr que par moment, bon, peut-être qu'il y a une forme d'emportement, mais ceci dit, moi, je suis plutôt du genre alarmiste, puis je pense que quand il faut réveiller le monde, il faut réveiller le monde. Regarde, Un seul exemple, puis je veux pas passer mon temps de chronique avec toi là-dessus, mais le CRTC est supposé pondre des politiques pour protéger, pour qu'il y ait du contenu québécois sur les plateformes. Ça va-tu
CRTC.
Arriver? On voit que... Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça, sa réputation. Alors là, on vient de confier au concierge qui dort au desk de l'hôtel la nuit de faire une opération à cœur ouvert. Parce que c'est très important, cette situation-là, de se voir dans nos prochaines plateformes où les jeunes écoutent leur contenu. Alors, je comprends que M. Saint-Pierre Plamondon voit là comme une forme de négligence. C'est vrai. Hey, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'étais là-bas pour me battre là-dessus. Ça fait 10 ans! Ça fait 10 ans que le monde écoute le contenu
l'amène
sur des iPads.
Tu sais, c'est pas lui comme ça qu'il l'amène. Il parle de déportation, puis les exécutions.
Mais il faut quand même reconnaître que c'est vrai. Bon, peut-être que par moment, on fait des amalgames pas tout à fait exactes. Mais d'entendre des gens chanter « God save the King » alors que M. Arsenault présente ça précisément en disant « Écoutez, en tout respect pour l'Acadie, là, je pense que l'allégeance au roi, on pourrait laisser faire. Puis les autres, à l'autre, en face, puis ça, c'est pas le gouvernement, on s'entend là-dessus. Là,
mais on s'entend que c'est les conservateurs qui ont fait ça.
Ça, c'est un comportement de hillbilly du centre du pays.
C'est ça. Mais des cabochons, là, puis des caves, là.
Ah, il y en a partout.
Il y en a partout.
Mais il y en a beaucoup, là.
Mais c'est comme si on jugeait le mouvement souverainiste des propos du FLQ quand ils ont tué Pierre Laporte ou des propos de Jacques Parizeau, puis de les rappeler, c'est des faits historiques.
Je comprends ce que tu dis.
Quand tu parles de l'extermination et de la déportation.
Oui, mais
ce serait ridicule.
Il faut mettre la table. Il faut appeler un chat un chat. Puis en ce moment, objectivement, l'avenir du Québec dans le Canada actuel, c'est pas beau tout de suite. On est en train de perdre de notre représentation démographique. Est-ce qu'il a pris, il a utilisé les bonnes images? Peut-être pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bon, ça amène le débat, puis il faut que ça réveille des gens, il faut que ça réveille des membres,
mais moi, je veux qu'il nous dise, il veut quoi? Il va faire quoi une fois qu'on aura le pays, là? Pour arrêter le déclin démographique? Parce que le déclin démographique arrêtera pas parce qu'on se sépare du Canada.
Non, mais ça, on s'en est déjà parlé, Yasmine. Accueillir des gens de partout parce qu'on est heureux de recevoir des gens de partout, puis parce que c'est notre mandat en tant que pays riche et privilégié de faire de la place pour le monde.
Il faut le dire qu'il va augmenter l'immigration.
Ben, écoutez, je dis pas qu'il va l'augmenter. Mais en campagne électorale, moi, je me suis avancé jusque-là. Mais il n'y en a pas moins que quand tu accueilles les gens puis que tu dis « Bienvenue au Québec, voici notre constitution, voici ce qu'on doit respecter, voici nos valeurs. » Mais c'est plus clair que quand quelqu'un arrive ici puis qu'il se fait accueillir. Avec un gars de la RCMP avec un chapeau puis un portrait du roi avec ses oreilles. Come on! C'est pas ça le Québec, s'il vous plaît. T'sais.
Parlons de Éric Lefebvre.
Oui, ah ben là... Moi, je dois dire que pour moi, ça, c'est un geste important. Je pense que pour la CAQ, en tout cas, c'est la fin de la récréation.
Il plaît.
À fond la caisse. Et je me questionne vraiment sur... Puis de voir Éric Girard, qui dit, « Mais moi, peut-être, je dis pas non. »
Là, aujourd'hui, je pense qu'il va aller le dire, qu'il va rester, parce que...
Mais il est bien mieux, parce qu'il vient de nous domper un budget qui fait pas plaisir. Hein?
Et une taxe, maintenant?
Oui, ben, la taxe sur... Oui, on vient d'improviser que le gain en capital sur une propriété est peut-être finalement imposable aux deux tiers plutôt que la moitié. C'est quand même important. On vient de nous balancer ça. Puis je pense que je vais peut-être aller au Canada en plus. On va travailler avec les conservateurs. C'est un petit peu léger. J'ai comme des échos des Kings de Los Angeles qui sonnent dans ma tête.
T'sais. Ah!
Mais non, mais honnêtement...
T'as des coups de patin qui sonnent dans
ma tête. J'aime pas ça. C'est-tu que ça coupe, ces affaires-là? Non, mais c'est ça. Alors, Éric Lefebvre, moi, ce que je voulais te dire, c'est... Premièrement, il faut se rappeler qu'Éric Lefebvre a un trou béant qui l'accueille, là, vraiment, là, comme de la poussière dans un aspirateur. C'est le fait que Alain Reyes, tant qu'à moi, Alain Reyes, un homme très intègre, un vrai conservateur de l'époque de Mulroney.
Un vrai progressiste conservateur.
Exactement, merci, tu as tout à fait mis le bon mot dessus. Alors, lui a dit, moi, je ne me représente pas. Donc, le trou était là. Le travail a été certainement très bien fait. M. Reyes a été très élégant avec le Parti conservateur. Donc, c'est normal que ça l'interpelle, M. Lefebvre. Ceci dit, donc, quelle est sa motivation? Moi,
il veut être ministre, là.
Si on dit ça directement comme ça, on s'entend. Ceci dit, j'aurais aimé ça pouvoir croire qu'il y avait un peu comme un Michael Fortier dans l'affaire. Ben, c'est-à-dire qu'on va aller s'assurer que le Québec est représenté dans le mouvement conservateur. Mais bon, OK, on niaisera pas.
Arrête.
On sait que c'est pas ça. Non, j'arrête pas. Je, c'est clair que je ne le crois pas non plus, mais je voulais donner le bénéfice du doute. Ceci dit, faut être prêt à avaler des couleuvres en maudit pour vouloir s'en aller dans ce gouvernement-là puis devenir ministre, quand la réalité, c'est que pour les Québécois, la réalité du mouvement conservateur actuel, il n'y a à peu près aucune affinité avec le Québec. Je veux dire, on peut être conservateur au Québec, bien évidemment. Bon, on peut être progressiste, on peut être vert, tous les choix sont là. Mais le Parti conservateur, tel qu'on le connaît actuellement au Canada, n'a pas d'écho au Québec. Puis on remarque le silence des troupes autour de Québec, là, de Gérard Deltel, de Paulus, de Généreux. Tous ces gens-là font « Oh mon Dieu, que c'est difficile de faire passer ce message-là. » Puis lui, il choisit de sauter là-dedans, Éric Lefebvre. Il saute, il choisit « Non, moi je m'en vais là. » Puis c'est ce qui m'a fait m'a donné des souvenirs à quel point... Au Canada anglais, ils ont des lectures très différentes de la gauche et de la droite que celles qu'on a au Québec.
Ouais, c'est sûr, mais on dirait que... Moi, ce qui me gosse, c'est que beaucoup de monde pense que c'est un club-école. le provincial.
Ah, ben oui, c'est ça, c'est atroce.
Il va aller faire de la vraie politique.
T'sais, moi, c'est l'inverse. J'étais très heureux de quitter Ottawa, puis j'aimerais ça, faire de la politique provinciale. Puis j'ai regretté le mot que je viens de prononcer. J'aurais jamais dû dire ça, faire de la politique provinciale. Je regrette, je recule. J'aimerais ça, faire de la politique au Québec. C'est, et on en parlait en ouverture, à quel point les Québécois voient leur gouvernement à Québec. C'est ça le gouvernement de la nation, du pays. C'est pas le cas dans les autres provinces. Mais ceci dit, la gauche canadienne a une bizarre de lecture de la gauche québécoise et la droite canadienne a une bizarre de lecture de la droite québécoise. La seule chose qui marche actuellement, c'est le centre un peu affairiste des libéraux, dont le message est peut-être un peu moins dichotomique. Mais quand on voit M. Poilievre arriver puis qu'on voit qu'il recrute M. Lefebvre, on se dit, ben écoute, qu'est-ce qu'ils vont nous passer comme sapin? Parce que la vérité, c'est que la plupart des Québécois sont pas du tout dans l'agenda de M. Poilievre.
Mais à quel point... Tu sais, moi, je me disais, là, la réflexion que je me faisais aujourd'hui, à quel point c'est un caucus qui tient de la broche, là, le caucus caquiste. On a un conservateur qui annonce que même le provincial va avoir une taxe sur le gain en capital, en même temps que son ancien collègue saute avec les conservateurs fédéraux.
Oui.
Puis ça, c'était une promesse.
Une belle colonne vertébrale, tout ça.
Québec solidaire.
Mm-hmm. Ben là, honnêtement, je trouve ça très, très léger. Puis moi, je me souviens, j'étais même assis exactement là où tu es. Quand j'ai entendu M. Legault dire « Je pense que les Québécois devraient voter conservateur », et c'est là que ça s'est cassé pour moi, là, ma notion de comprendre le nationalisme tranquille, c'était de l'affairisme de M. Legault. Quand il m'a dit ça, on peut pas soutenir des gens.
Les Québécois y ont répondu.
Hein?
Les Québécois y ont répondu.
Ben voilà, absolument. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement conservateur est otage de la production de pétrole dans les sables bitumineux. Hein? Ils sont obligés de dire à Mme Smith, vous avez raison, les pailles en plastique, là, c'est le fun, on en veut plus. Parce qu'elle dit ça, la première ministre d'Alberta. Alors, les conservateurs sont obligés de dire, ben on est d'accord avec ça parce que c'est leur bloc, c'est vraiment leur socle, en fait, ben le mot terme juste. Fait qu'enfin, ceci dit, M. Lefebvre, je trouve pas ça inspirant, puis je dirais même que ça pourrait provoquer un petit cynisme dans la population de voir que, bon, ben regarde, si je pourrais bien faire, ça va être bon, ça, moi, être ministre avec ces gens-là, alors que très clairement, c'est pas une solution compatible pour le Québec d'approche de Pierre Poilievre.
Quoi qu'on est en démocratie, puis il va devoir aller chercher la confiance de ses électeurs pour pouvoir aller éventuellement être ministre. Et c'est pas aisé parce que on pense souvent que Richmond-Arthabasca est un comté conservateur.
Mais non, juste non, c'est bloquiste.
Ben Alain Reyes, c'est celui qui l'a pris des bloquistes. Là.
Absolument.
C'était bloquiste, oui. Un comté bloquiste. Fait que c'est...
Tout à fait. Mais et puis la démarche intellectuelle de Reyes de dire que, rappelons-nous quand même, c'est pas rien qu'il a était un ambassadeur exceptionnel pour le Parti progressiste conservateur au Québec et qu'il a soutenu un candidat du Parti vert à la dernière élection. Parce qu'il a deux yeux devant les trous. Il voit bien le problème. Tu sais, honnêtement, fait que ces gens-là sont exposés à faire des choix qui seront déterminants pour le Canada et pour le Québec, évidemment.
Pierre Nantel.
Fin de semaine.
Toujours un plaisir.
Bye.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel Fadel.
Je retrouve Alexandre Moranville où elle est pour parler d'une toute une tragédie qui a eu lieu devant le procès de Trump a lieu à New York. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, juste devant le palais de justice, puis ça survient, là, drôle de coïncidence, au moment même où le juge vient juste de sélectionner les 12 jurés ainsi que les 6 remplaçants qui vont être pris pour le procès Trump. Je rappelle, premier procès pénal contre un ex-président de l'histoire, procès pénal dans l'histoire, le dépaiement à la star du X, Stormy Daniels. Et là, ben, devant le palais de justice, il y a un homme qui s'est immolé, qui a tenté de s'immoler par le feu, donc qui s'est versé de l'essence dessus, là, ni plus ni moins, ou autre substance inflammable, et c'est ni plus ni moins qu'embrasé. Yasmine, il y a des images, trauma avertissement, là, d'avance, c'est pas pour les yeux sensibles, il y a quelqu'un qui est littéralement en train de brûler, mais voici en images ce qui se passe juste devant le palais de justice, alors qu'on peut voir des images de cet homme qui s'est donc embrasé, là, puis on voit la police qui tente là de l'éteindre sur place. L'état de santé de l'homme est pas connu en ce moment, il y a toujours des fortes odeurs, puis ça s'est passé un moment où il y a, on le voit en arrière, là, tous les camions, des nouvelles d'un peu partout dans le monde, particulièrement des nouvelles américaines. Il y avait une journaliste de CNN qui était en onde en direct là, au moment où l'homme s'est immolé.
Est-ce qu'on connaît ses motivations?
Non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles vraiment sur les motivations qu'il aurait poussé à faire ça. Est-ce que c'est un anti-Trump? Est-ce que c'est un pro-Trump? pour l'instant, c'est presque impossible de le savoir. Reste évidemment qu'il y a tellement de fanatisme auprès de certains pro-Trump que ça pourrait être dans ce camp-là, mais on veut pas bien évidemment s'avancer trop loin autour de tout ça, mais c'est vraiment la situation absolument ahurissante. Là, on avait déjà vu ça pour des causes humanitaires. Il y a quelqu'un qui s'était immolé, entre autres aux États-Unis, comme ça, pour être en soutien à Gaza, par exemple. Mais là, dans une cause pénale de M. Trump... C'est un autre niveau là, de voir quelqu'un qui fait ça. Donc, extrêmement troublant comme image. Là, quand on aura plus de détails, Yasmine, on pourra en parler ici à Cube.
Merci beaucoup, Alexandre Morinville-Ouellet.
Plaisir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Presque 3 ans après la parution du fameux rapport Laurent, là, que notre collègue Régine Laurent a... À finalement présenter au Québec entier, où elle nous parlait de système de protection de la jeunesse. Des nouvelles données montrent, imaginez, le tiers des jeunes qui ont vécu un placement sous la tutelle de la DPJ se retrouvent, à l'âge de 21 ans, dans un cul-de-sac professionnel en n'étant ni aux études, ni en formation, ni au travail. C'est 3 fois plus que la population générale du même âge. On en parle avec Martin Goyette, professeur à l'École nationale d'administration publique et co-directeur de l'étude emploi et scolarité des écarts parlants chez les jeunes placés sous les services de la protection de la jeunesse. Monsieur Goyette, bonjour.
Bonjour, je suis bien heureux d'être avec vous.
Merci beaucoup. Donnez-nous quels sont les faits saillants là, de cette étude-là qui choque.
Ben effectivement, les jeunes qui sortent de protection de la jeunesse connaissent des difficultés pour la plupart et pour plusieurs dans leur parcours professionnel. C'est une étude qui s'appuie sur plusieurs entretiens longitudinaux qui ont été menés avec une cohorte de jeunes qui ont quitté la protection de la jeunesse en 2017, plus de 1000 jeunes qu'on a croisés avec des données administratives, par exemple des données sur leur consommation de services en santé et services sociaux. Et surtout, on les a réinterrogés pour un certain nombre, en plus petits groupes, à 24 ans, donc l'été dernier. Ce qui ressort avec grande acuité, c'est qu'il y a une forte instabilité et des emplois peu rémunérants. Ils sont dans des situations où parce que près de 40% d'entre eux seulement ont un diplôme d'études secondaires, les emplois auxquels ils accèdent sont des emplois qui ne protègent pas beaucoup et parfois qui sont dans des contextes où ils perdent souvent leur emploi. Donc, cette trajectoire professionnelle-là est à soutenir pour plusieurs de ces jeunes-là, notamment parce qu'elle se croise avec d'autres importants facteurs qui jouent là, sur le parcours professionnel.
Mais, M. Goyette, la question que je me posais en regardant ça, c'est est-ce qu'on peut faire une corrélation? Ben, en fait, oui, on fait visiblement une corrélation entre le passage à la DPJ et la situation, disons, inquiétante à l'âge de 21 ans. Mais faudrait-il vraiment dire que c'est la DPJ qui cause ça? Est-ce qu'il y a un effet, là, cause à effet, là, finalement, un phénomène de cause à effet? Ou devrait-on plutôt réfléchir aux événements qui ont mené à ce que ce jeune soit placé à la DPJ, qui sont finalement en amont du placement en DPJ?
Merci beaucoup de poser la question de cette manière-là. Je pense qu'effectivement, il y a deux façons d'y répondre. La première, c'est que c'est clair que les jeunes qui composent la cohorte de EJEP, c'est cette étude dont je parle, ont connu des placements et ont un profil de difficultés relationnelles, familiales importants. Ils ont connu certainement des traumas, c'est clair, dans les données qu'on a auprès d'eux. Et ces enjeux-là, avant, mais aussi pendant et après le placement, pour la plupart sont là. D'un autre côté, je nous invite à réfléchir parce que certains milieux de placement dans lesquels ils sont retirés de leur famille ne parviennent pas, d'autres de nos études l'ont montré, à développer des habiletés d'autonomie qui pourraient faire en sorte de soutenir la transition à la vie adulte.
Et là, grosso modo, ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur Goyette, c'est que la DPJ ne contribue pas à moins amoindrir les risques qui ont mené au placement, par exemple, de les outiller adéquatement pour pouvoir diminuer l'impact de ces traumas d'enfance.
Ben, certains milieux de placement, effectivement, les centres de réadaptation, par exemple, les jeunes nous le disent, les données de nos études le montrent, sont clairement pas des contextes de vie qui parviennent à faire en sorte de développer de l'autonomie. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans notre rapport publié aujourd'hui, on montre clairement que les jeunes qui ont des grandes difficultés dans le parcours professionnel, vous nommiez là, ces jeunes qui sont ni au travail, ni en formation, ni aux études. Lorsque, par exemple, ils connaissent des difficultés en lien avec l'itinérance, ben ces jeunes sortant de placement ont plus de chances de se retrouver dans ce groupe des jeunes NIF. Un autre élément, nos autres études, et on le confirme encore aujourd'hui, montrent que les jeunes qui ont été placés ont un diplôme d'études secondaires pour 37 % d'entre eux, pendant qu'en population générale de jeunes du même âge, c'est plus de 80 %. Alors, cet élément-là est un élément extrêmement important,
ben
puisque,
oui.
Bien sûr, si tu n'as pas de diplôme d'études secondaires, tu vas accéder à un milieu du travail
précaire,
peut-être moins gratifiant puis moins rémunérateur. Donc, ces éléments-là, on l'a montré dans nos autres études, sont des éléments absolument importants. La stabilisation en logement, prenez l'itinérance, l'emphase qu'on doit mettre sur la scolarisation, parce que dès que les jeunes sont plus scolarisés, dans le rapport d'aujourd'hui également, on le montre, ils sont dans des emplois plus rémunérateurs et ils sont dans des contextes de vie beaucoup plus favorables.
Espérons que ce rapport va essayer de réveiller certains de nos autorités publiques pour dire que cette jeunesse-là, on ne peut pas se permettre de la perdre, on peut pas se permettre de la sacrifier, qu'elle a déjà vécu assez de traumas, déjà assez de difficultés, une enfance qui est parsemée d'événements traumatisants. Il faut leur donner les outils pour qu'ils puissent non seulement s'accomplir, mais contribuer également à la société à la hauteur de leur talent. Merci beaucoup, Martin Goyette, professeur à l'École nationale d'administration publique et co-directeur de l'étude emploi et scolarité des écarts parlants chez les jeunesses placées sous les services de la protection de la jeunesse au Québec. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Yasmine. À bientôt.
Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités et chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.